deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
Il y a 26 ans, je faisais ma première entrevue avec eux, Noir Silence.
26 ans, pour vrai?
En 94. Juillet 94, au Festival de Gibla.
Toi, ça te rajeunit pas, nous autres, oui. Est-ce que ça existe toujours, la Giblotte?
Oui, ça s'appelle le Jib Fest maintenant.
Ah. Ça a été légitime.
Ça serait le fun de vous voir en show, là, d'ailleurs.
J'aimerais beaucoup. On aime ça, faire des shows. C'est là qu'on a du fun. Mais c'était il y a 26 ans, pour vrai.
Ouais.
Je me souviens très bien dans la roulotte quand t'es arrivé.
Oui, c'est ça.
De montrer les escaliers. T'étais un peu nerveux. Oui. Il faut le dire.
Moi, c'est l'époque où je me rappelle de rien. Un gros silence, là.
Non, moi, je me souviens, il est rentré dans la loge, un peu timide, début de carrière avec son petit carnet. À l'époque, pas de téléphone, rien. Je me souviens très bien de ta présence.
C'est vrai, hein, les journalistes faisaient ça à carnet.
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. Hein. Je me rappelle quand nous autres, on recevait des fax au bureau.
Vous allez jouer comme... à telle place, telle date.
Du courrier aussi,
ouais,
de fans.
Du courrier de fans,
oui. Oui, ça, c'était étrange, du courrier de fans.
C'était étrange. Puis même, c'était une époque où les musiciens jouaient pour vrai.
C'est étrange de recevoir du courrier de fans à l'époque. Parce que le contact, c'est un contact que nous-mêmes, on avait. Tu sais, quand tu vieillis. Gâche, je te donne un exemple. Moi, j'ai une blague qui a déjà passé dans Cro.
Vas-y, je suis sûr que.
J'étais jeune, là. T'imagines-tu?
Ah, parce que t'avais écrit comme lecteur à Cro.
Comme lecteur, j'avais une blague qui avait passé dans Cro. Et c'était la grosse affaire de ma vie. À cette heure, si tu veux voir quelque chose, tu vas sur Internet, c'est même plus drôle. Il n'y a plus l'happening de quelque chose, tu sais.
T'as raison.
Là, j'avais acheté la revue, je l'ai conservée, etc. Donc, quand tu recevais une lettre de quelqu'un, il avait pris le temps d'écrire la lettre, il avait pris le temps de coller la lettre avec sa langue.
Et de corriger les fautes
aussi, de peser ses mots en l'écrivant.
Et de mettre un timbre dessus.
C'était un investissement, là, ça coûtait cher.
Là, juste le temps que je l'ai dit, là, on aurait eu le temps de voir 3 sites de porn. Mais ça, c'est un autre truc. Ceci dit...
Sam, il est midi.
Ouais, c'est ça, on est sur l'heure du lunch. Là.
Midi, man.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens prenaient le temps de prendre le temps. Donc... Et ça, c'est extraordinaire de recevoir une lettre. Mais je trouve que c'est plus valorisant de recevoir une lettre à l'époque
qu'un
simple courriel aujourd'hui.
Puis en même temps, ça, j'ai l'impression que ça, il y a une certaine limite que les gens ne dépassaient pas. Tu sais. Je fais un exemple. Ouais. Ce matin, dans une station de radio, je faisais une reprise d'une chanson et il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire hey, là, t'es mieux de ne pas la manquer. Jamais. T'aurais eu cette discussion-là.
Ben, le temps que la lettre se rende, elle ne serait pas arrivée avant ta perte.
C'est ça. Mais je veux dire, il y a une proximité peut-être qu'on n'avait pas que les gens. Ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi parce qu'à un moment donné, les gens s'imaginent qu'ils te connaissent sous certains prétextes que tu ne connais pas nécessairement.
Mais ils ne se doutent pas que tu es keto, permettre... par exemple.
Non, ils ne se doutent pas que je suis keto maintenant. Mais ils peuvent des fois, on se permet, les gens se permettent une certaine liberté qui est malaisante, là, je te dirais. À l'époque, tu recevais une lettre et c'était très cérémonieux. Là,
d'ailleurs, ouais. Noir Silence fait partie des 1,25 000. Donc, en 1995, on était 1,25 millième des premiers sites Internet mondiaux.
OK.
Et je me souviens, 25 000, là, c'est à peu près ça le nombre, d'internet, nombre de sites Internet que dans la ville ici.
Oui, probablement.
Et je me souviens, la première fois qu'on a ouvert un genre de « écrivez-nous », après trois lectures, j'étais plus capable. Parce que justement, les gens se permettaient des choses que je fais comme « aïe aïe ».
Mais moi, j'étais surpris de voir. Je comprenais. Premièrement, je comprenais pas. Internet, ça, j'arrivais pas à comprendre. Comment ça? Là, il y a quelqu'un de la France qui nous a écrit un mot, là. Là, Michel, la clavériste de Noir Silence, dit « oh oui, c'est un message qu'on reçoit de la France ». T'as une minute, là. Là, tu me dis qu'à la France, ils écrivent, puis ça se rend dans mon ordinateur. J'arrivais pas à concevoir ça.
Ça a été vite, puis ces commentaires-là, moi, m'affectaient beaucoup. Beaucoup, parce qu'à l'époque, c'était en plus c'était le direct comme ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur.
On a entendu un genre de toi. Chanson qui n'a failli jamais exister.
Ouais.
Qui ne devait pas être sur le premier album. Vous avez même dit en entrevue que vous l'avez botché.
Oui, on l'a botché.
D'où le fade-out à la fin.
Oui, c'est ça. Quand une chanson finit en fade-out, c'est-à-dire que le volume baisse à la fin de la toune, ça, c'est parce ils ont botché. Ils disent, comment qu'on l'a fini? Je sais pas, fait, baisse le son. C'est qu'ils n'ont pas été assez loin dans l'écriture de la chanson pour écrire une fin, tu sais. Fait que, oui, effectivement, on l'a botché. Mais
c'est toute cette chanson-là, On jase de toi, qui...
Remplaçait une toune?
Oui, elle a remplacé une chanson qui était une chanson où on voulait des cordes, où on voulait... Bon, il faut se mettre dans la tête de l'époque. Hein. Nous, on est un mélange entre Bon Jovi, un mélange entre Metallica et Richard Séguin. Tu comprends? Nous, là, on
c'est
est
large.
Ça.
Dans... Oui, mais c'était, non,
c'est
large, c'était
mais c'est ça. C'est ça. On était des... Il y avait des techniciens dans le band musical. Il y avait des gars qui étaient plus roots. Puis il y avait des gars qui étaient encore plus... T'sais, c'était la montée de Seattle. Donc, ouais, il y avait on était influencés par plein de choses. Quand cette chanson-là est arrivée, elle était encore plus mélangeante pour les cinq. On savait pas quoi faire avec. On avait une belle chanson avec des cordes, puis là, on misait sur cette chanson-là, et on n'avait pas de budget. Et je me souviens très bien quand Dubé a dit, « Ben, on va faire On jase de toi, Sam. Va chercher une guitare, puis joue. Hein? Je vais jouer sur l'album! »
mais c'est vrai, on avait éliminé On jase de toi du processus de sélection de l'album. Parce que justement, là, on avait l'impression qu'on tirait trop à gauche puis à droite. Là, on avait des chansons très progressives, des chansons. Et là, on arrivait avec une chanson country, on se disait là, ça va être trop. Et finalement, L'Ange perdu, qui s'est retrouvé sur le deuxième album de Noir Silence par après, on était supposé l'avoir sur le premier album. Finalement, on a dit, on n'a pas le budget pour pouvoir se le permettre parce qu'on
ne se mentira comme on pas. Veut,
hein? Le premier album de Noir Silence a coûté 2 000 $ à produire. C'est le prix. D'une chanson aujourd'hui.
L'album, non, lui a coûté 7 000, le premier. Le vrai premier, le bleu, okay. Il a coûté 7 000. Le noir a coûté 2 000.
Le noir a coûté 2 000.
Fait que ça a coûté 7 000, tu sais. Ce qui est quand même... Jeunes volontaires.
Exactement, c'est Jeunes volontaires qui ont fait l'album. On salue Jeunes volontaires, d'ailleurs. Et c'est ça. Donc, on jase de toi. On a dit, bon, mais regarde, on va la faire. Elle va être facile à faire. Ça va prendre 5 minutes, puis elle va être enregistrée. Puis...
Mais là, quand l'équipe dit ça va être... Une chanson qu'on va lancer à la radio. Vous commencez, vous
ben
avez
moi,
pas l'expérience à ce
moi, j'ai vraiment dit à l'équipe, j'ai dit, êtes-vous conscient que je l'ai écrit en 15 minutes? Vous voulez vraiment lancer cette chanson-là?
Jeff a fait une courte dépression.
Ouais.
Parce que toutes les chansons rock qu'on avait écrites, les chansons avec des temps en 5-4, puis des chansons avec des harmonies, puis des chansons qu'on avait travaillées comme des malades, on passait dans le bar. Et là, On jase de toi arrive, elle est sélectionnée, on fait un vidéoclip, on devient numéro un.
Mais il y a une grosse leçon à retenir de ça, parce que à un moment donné, quand tu as le nez collé sur l'écorce, tu vois pas le reste de la forêt. T'sais. Puis pour nous autres, une bonne chanson est une chanson qu'on a travaillé beaucoup. Puis, mais souvent, c'est juste l'instinct qui fait que le produit est bon. Et quand une chanson est bonne, parce qu'on l'a dit, l'album a coûté quoi? 7 000 à faire. Je veux dire, quand on s'est présenté à la disque et qu'on a gagné 3 Félix pour cet album-là, je veux dire, il y a des albums qui avaient coûté 100 000, et là, on arrive avec presque notre démo et qu'on gagne les prix. Ce qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'une bonne chanson, un bon produit, c'est juste sa capacité à rejoindre les gens.
C'est les
tout
gens
simplement,
qui décident.
Mais quand on n'est pas sûr de la toune et que ça devient le hit et qu'en show, c'est celle-là qu'il faut faire le plus parce que le monde la veut. Ben, est-ce que comme musicien, comme chanteur, on s'écœure vite de l'affaire si on ne l'aimait pas tant que ça au départ?
Non, parce que, je veux dire, c'est tu te dis tout le temps, « Ah, oh, c'est pas grave, si le show lève pas,
on va nous sauver, c'est la toute qui va sauver le show. »
Vraiment, là, on a eu des périodes, OK? La période qui a duré 5 ans où on s'est posé des questions, où on ne comprenait absolument rien sur « Il faut vraiment faire 3 fois On jase de toi en spectacle. » Man, il y a des endroits où... On
était dans le show puis était en rappel.
Il fallut la faire 2 fois en rappel. Le monde ne quittait pas le festival. Le monde voulait qu'on fasse une 2e fois On jase de toi en rappel. T'imagines? Ça fait 3 fois dans le show. Donc, elle a eu cet impact-là. À un moment donné, on a eu une satiété. OK? Puis à un moment donné, on a fait la paix. Et je me souviens du moment où on a refait la paix avec On jase de toi. Et là, elle nous est rentrée dans le corps. Puis elle est devenue plus que notre amie.
Il y a aussi le fait que ce qui est important quand tu fais de la musique, c'est de vouloir la partager. T'sais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui disait que la différence entre un fou et un artiste, c'est que le fou n'a pas besoin de partager sa création. L'artiste a besoin de la partager. Et quand le produit que tu partages devient le moment fort d'une soirée, tu retrouves ton plaisir peut-être à faire cette chanson-là. Tu sais, à un moment donné, on jase de toi, je te mens pas, je pourrais la faire en dormant. Je l'ai assez fait dans ma vie, je pourrais la faire en dormant. Ce qui fait que quand on la joue en spectacle, j'ai même plus à réfléchir à jouer la chanson. Je peux juste savourer le moment, savourer l'énergie que les gens nous donnent, savourer le plaisir que ça procure. Et je pense que c'est là. À un moment donné, ça devient comme un bruit de fond, la chanson, puis tu penses plus à la chanson, mais plus à la réaction et ce qu'elle apporte. Là,
depuis 1995, on jase... Et là, vous devez applaudir en feu. On jase de toi a eu 27 000 spins à la radio. 27 000. Bravo!
Donc, c'est un classique soquant? C'est-tu 25 000, un classique soquant?
25 000, classique soquant. Oui, on a dépassé un classique soquant.
Donc, vous l'avez eu?
Non,
pas encore. Ça
sonne même, là.
On jase, là.
Ça s'en vient.
On espère. Mais tu sais, c'est
est-ce que c'est celle qui a spiné le plus de noir cela?
Oui, définitivement. Oui,
définitivement, oui. Puis même dernièrement, on a vu les rapports de Spotify. On est à 1,7 million de streaming. 90 000 heures d'écoute. Pour cette année, band, pour cette année 2019. Là.
Cette année, donc, le total des heures d'écoute sur Spotify, c'est comme si quelqu'un écoutait 10 ans de Noir Silence en ligne.
C'est assez... ça encore, c'est des choses qui me dépassent, que je comprends pas. Tu sais, c'est quoi cette technologie-là? J'arrive pas à catcher.
Mais c'est quand même quelque chose.
Oui, c'est énorme.
Surtout pour un band, tu sais, après 25 ans, à un moment donné, tu te dis ça s'essouffle, puis hop, tu te rends compte que non, les gens sont encore là. Tu sais.
Regarde-toi. Hein? Regarde-toi, là, t'es rendu à la radio depuis... T'as fait des années de radio depuis 25 ans aussi?
Oh, 11 ans.
Ouais. 11 ans? 11 ans?
J'étais étudiant dans le temps, moi. Okay, j'étais au cégep. Moi, vous autres, vous travaillez déjà. Moi, j'étais au cégep.
Ah, ouais.
Bon, là, travailler, c'est un bien grand mot.
On était au cégep aussi, by the way. Hein.
Oui, il y a
on
ça.
On a commencé au cégep en même temps. Mais tu vois, puis ensuite, tu sais, toi, t'as eu ta carrière également. Tu continues. Et les gens qui, avec nous, ont grandi avec On jase de toi, ont grandi avec Noir Silence... Là, ils viennent de payer leur deuxième voiture. Les enfants sont à veille de quitter la maison. Là, ils commencent à retourner en festival et ils retrouvent les Noirs Silences, les Vilains Pingouins,
les Frères Cheval,
ces bandes-là. Ouais. C'est pour ça que là, cette année, on a eu une année exceptionnelle en spectacle parce que les gens qui viennent nous voir, c'est du monde qui n'ont pas bu de bière depuis deux décennies. Fait que là, ils font « on va se venger ». C'est vraiment ce monde-là qui vient nous voir, tu sais.
On a parlé des débuts tout à l'heure. Quand ça s'est mis à décoller en fond, on a parlé du cégep. Vous étiez au cégep ou à la fin du cégep. Mm-hmm. Comment on réagit quand on est TQ et que le premier album part en malade? Est-ce que c'est
ben, y a eu un choix à faire.
Cinq amis?
Oui, il y a eu un choix à faire, hein, honnêtement. Je veux dire, il reste le cégep à... En fait, j'ai jamais terminé mon cégep.
Moi non plus.
Il manque genre un cours d'éducation physique, un cours de philo, puis un... Donc, à un moment donné, tu viens, tu te poses la question, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je finis l'école? J'ai un contrat de disque, là, ou, tu sais, fait que... En tout cas, de mon côté, je me suis dit, bon, l'école va toujours être là. La chance que j'ai de sortir un album, de faire un disque, elle est là. Ça arrive une fois à tous les 10 000 ans. Donc, j'ai dit, je vais me lancer. Puis au pire, je retournerai à l'école. Puis, tu vois, maintenant, j'enseigne. Fait que c'est pour dire que, finalement, la roue tourne, hein?
Toi, comment vous avez... Ben, le band, ça a créé quoi dans le band? Ben, ça, ce succès-là, parce que vous êtes cinq amis qui partent un groupe.
Ouais.
Mais le succès, tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas comment on va le gérer entre amis. Là.
En fait, le succès, ça devrait arriver à 40 ans. Ouais. OK? Ça, c'est la base. Je pense que l'ensemble d'une connaissance de l'être, il doit apprendre à se connaître lui-même avant d'affronter le succès. Je peux comprendre tous les stars académiciens qui font d'énormes... chute après. Le succès est une chose qui est incontrôlable. Et le succès est une chose qui ne se calcule pas. Le succès est une chose qui afflige. Et le succès est une chose qui change soi-même et les autres envers soi-même. Donc, ça devient une culture très, très étrange pour une personne. Imagine cinq gars dans un truck.
Puis c'est un couteau à double tranchant aussi. Sam, il parle du succès, tu sais. Le problème, c'est que tu vois, t'as trop tendance à voir ta valeur dans les yeux des autres. Et le succès, c'est toujours éphémère. Et quand les gens décident de regarder ce qu'il y a de nouveau, parce que tu peux pas rester toujours numéro un. Donc, quand quelqu'un d'autre arrive et te prend ton numéro un, vu que tu te valorises dans les yeux des autres, là, tu dis, bon, ça y est, je ne vaux plus rien, tu sais. Puis je vends plus d'albums, je vaux plus rien. Ce que je fais est plus bon. Et c'est pas vrai, au contraire, tu sais, je pense.
C'est quoi le succès, Jean-François? C'est quoi le succès, justement? Comment on calibre le succès? Est-ce que c'est le nombre de fois que tu vas en télé? Comme il y en a des artistes qui vont en télé 10 fois par année puis qui crèvent de faim.
Ah oui, tout à fait.
Tout à fait. Puis on les considère comme des vedettes ou on les considère comme des gens à succès. Il y a des comédiens qui font un film à tous les 5 ans. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des choses. C'est quoi un succès? C'est quoi une vedette? À partir du moment où, tu sais, Noir Silence, nous, on a été une période où on a arrêté, on a refusé de faire nos propres vidéoclips parce qu'on était tanné de se voir.
Quand même.
Ça t'en donne ouais, une.
C'est vrai. Oh,
oui. On a refusé.
Le vidéoclip maintenant vu, on n'est pas dedans.
On a dit non, c'est assez. On se voit à télé, on s'entend à radio, on se voit sur les journaux. Ça suffit. Et probablement qu'on aurait vécu ça d'une autre manière, un peu plus vieux. Mais le succès, c'est quoi maintenant? À ce temps, c'est quelqu'un qui a 1 million de views dans 4 heures. Je veux dire, calvasse. Est-ce qu'il va vivre de ça pour autant?
Moi, peut-être je pense. Peut-être un bout, mais peut-être pas longtemps.
Peut-être pas longtemps. Il est rendu où, Nam Style? Je veux dire. Tu sais, donc. C'est quoi un hit? C'est quoi un succès? Moi, je pense qu'on a vécu la dernière tranche de dans les années, jusqu'en 2010, c'est la dernière tranche de vrai succès. Où t'en vivais, on te voyait, tu produisais, tu récoltais. Maintenant, c'est un free-for-all complètement. Et on fait des shows, une chance qu'on fait beaucoup de shows. Puis on en vit bien actuellement, c'est le fun, tu sais.
On a fait quoi? Presque une trentaine de shows cet été. Il y a encore des gens qui nous disent « Qu'est-ce que vous faites? Non, vous faites plus rien, vous autres? » Tabarouette! J'ai fait 3 tours du Québec cet été. C'est ça, c'est difficile à relativiser. Je pense que ça se passe dans les yeux des autres. Et je pense que l'erreur souvent qu'on fait, c'est qu'on vend ce métier-là comme devenir une star, tu sais. Mais c'est pas ça. T'es un créateur, t'es un artiste,
T'auras pas de fun si tu n'es qu'une star. Tandis que si t'es un musicien, peu importe la gig, c'est moindrement agréable.
Tu peux devenir un entertainer, tu peux devenir, mais une star, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vide de sens.
Puis il y a une chose qui est très, 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 très dangereuse. Je te dirais que 99,9999% des gens que tu prends en entrevue, c'est des carencés. C'est des gens qui ont des problèmes ou qui en ont eu. C'est des gens qui ont été mis de côté à l'école. C'est des gens qui ont été opprimés, qui ont été victimes de...
Regarde Sam, là.
Non, mais toi, t'as été mis dans une case aussi, tu sais. Ouais, ouais. Moi, à l'école, j'étais le plus petit des plus petits. Je me battais tout le temps, là, tu comprends? Donc, j'ai été victime d'intimidation, etc., etc. Bon, il y a une raison pour laquelle tu montes sur un stage.
Ce besoin d'attention-là, d'amour.
Oui. Alors, si tu t'attends à ce que le fait que tu vives un succès vienne nécessairement combler ton manque émotionnel, t'es dans un problème.
Oui, parce que le danger, c'est quand tu n'as plus cette attention-là, tu Exactement. Tombes de haut en tabarouette.
Exactement. Tu fais une double split par en arrière. Et ça fait mal, tu sais. Alors, parce qu'en vieillissant, on s'est bien rendu compte que, et en fréquentant d'autres personnes, la majorité de Kurt Cobain était mêlé. C'est pas le seul qui était mêlé. Ils étaient tous mêlés.
Ben, en voyant le film Dédé,
ouais, c'est ça.
À un moment donné, je le regardais et je m'identifiais beaucoup à ce que je vivais. Dans les derniers moments, juste avant que je quitte Noir Silence, ça allait pas bien dans ma vie. Et je suis tombé excessivement malade. J'ai dû annuler des spectacles. En regardant le film Dédé, j'ai regardé ma blonde à l'époque. J'ai dit, sais-tu quoi? Si j'étais pas tombé malade, je serais à la même place que Dédé aujourd'hui. Vraiment, il est arrivé, mon corps m'a parlé, m'a dit « Regarde, là, c'est trop. » Puis c'est ça, il y en a qui, oui, le succès fonctionne, mais il y a une carence, il y a un mal, puis ça se comble pas là. Et si tu cherches à combler ça là, c'est la quête du Graal, tu le trouveras jamais. Là.
Si on enlève le mot succès qu'on dit « ça fait 27 ans que Noir Silence existe », à peu près pas eu de grande pause. Noir Silence a été à peu près actif tout le temps.
Oui,
pendant les 27 ans, de plusieurs façons, mais
il y a
un noyau qui était là. Toi, tu as continué à faire de la musique aussi pendant toutes ces années-là. Est-ce que c'est un privilège d'être encore actif?
Fois mille.
Et qu'il y ait encore des gens qui répondent à l'appel 27 ans plus tard?
Ah oui, puis je vois beaucoup de jeunes artistes, tu sais, que... À un moment donné, tu t'aides, puis tu dis « OK, tu jases avec. » Puis je me rends compte comment c'est difficile pour un jeune artiste. Ce qui est difficile dans ce métier-là, c'est de rester. Percer, c'est pas compliqué, là. Tu mets l'argent qu'il faut, puis tu vas percer. Mais rester, là, c'est difficile. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes artistes qui, oups, ils ont eu un gros pic. Et là, je les revois 5 ans plus tard. Et là, ils paniquent parce qu'il ne se passe rien. Et je me sens privilégié d'être encore là. T'sais.
Gilles Vigneault a dit une phrase exceptionnelle. De reconnaître une loge, c'est une honneur. Un honneur.
Un honneur.
Un honneur. De reconnaître une loge, c'est un honneur.
Ça veut dire que tu es allé plus qu'une fois et tu t'en souviens.
Qu'une loge te reconnaisse, c'est une bénédiction. Fait que, tu sais, quand on trouve des festivals ou des lieux qu'on est allé 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, des villes. Tu sais, maintenant, on est allé à Bécomo. Moi, je suis resté une journée de plus, en tout cas pour une raison de on connaît les traversiers au Québec, mais bon, c'est une autre histoire. J'avais une amie que j'avais pas vue depuis 17 ans ou 25 ans, je me souviens plus, qui était rendue, genre, elle avait 64 ans. Mais ça faisait 24 ans que je l'avais pas vue.
Était dans la quarantaine.
Oui, elle était dans la quarantaine à l'époque. Puis on était devenus amis là-bas. T'imagines-tu quand tu rejoins des gens, que tu revois des lieux, les îles de la Madeleine, qu'est-ce que les gens font ailleurs au Québec? Donc, le privilège de faire ça à long terme, c'est de redécouvrir ce que tu as manqué la première fois. Parce qu'on était tout le temps stressé, parce qu'on était jeune, qu'on faisait 300 shows par année. Oui. Là, on est déjà allé dans le Nord. On a resté 2 jours de plus pour aller à la pêche. On était invité au bras de la Rupert. Ben écoute, on va en profiter pour aller à la pêche tant qu'à être là, tu sais. Qui peut se vanter de faire le tour du Québec étant payé et de rencontrer des gens et de mordre dans le Québec autant? Il y a juste les artistes qui peuvent faire
ça. Et des gens qui chantent ce qu'on a écrit
ça, c'est...
en gang ou séparément sur le coin d'une table ou peu importe dans quel contexte.
Tout à fait.
Ben, la reconnaissance, comme je disais, c'est t'écris des chansons d'abord pour toi, mais t'as besoin de les partager. C'est sûr qu'un peintre va vouloir faire une peinture et va espérer à quelque part que les gens vont l'aimer ou qu'ils vont l'acheter ou que ça ne te tente pas de faire une peinture puis que volontairement...
Il n'y aura jamais le même buzz que du monde qui chante ce que tu as fait.
Ben, c'est différent, c'est un autre trip, tu sais. Mais c'est sûr que ça vient chercher. Quand tu réussis, j'ai été les chercher. Là, en même temps, c'est un sens que tu connectes encore. C'est rassurant, ben, c'est un sens que tu connectes encore. C'est très difficile pour un artiste de faire son deuxième album quand tu as eu énormément de succès, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est parce que tu vis plus dans le même univers que le reste du monde. Et de savoir que tu es encore capable d'écrire des choses qui les rejoignent, ça veut dire que tu es encore assez connecté dans le vrai monde. Là, t'sais. Il y a plusieurs artistes qui, je veux dire, quand tu atteins le succès, tu te ramasses dans une bulle hermétique où les seules personnes avec qui tu as des contacts, c'est ton gérant, tes fans, ta compagnie de disques, puis tout ce monde-là te dit t'es beau, t'es fin, t'es le meilleur. C'est pas sain, là, tu comprends? C'est pas sain. Et de savoir que tu réussis à rester grandé, c'est rassurant.
Il y a eu plusieurs phases à Noir Silence. Vous avez dit 4 phases. Évidemment, il y a eu la première dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a eu Quand tu quittes, le groupe. Donc, nouvelle formule, parce que vous êtes deux à être partis en même temps, ou en tout cas
Martin
presque en même temps.
Un petit peu après moi, oui.
Ouais.
Et après ça, t'es revenu. Et il y a eu le bout plus rock, qui a été moins médiatisé, qui a moins tourné, et maintenant, qui est comme le retour avec un album qui est sorti l'an dernier.
Mm-hmm.
Est-ce que chacune des phases a été un apprentissage pour Noir Silence? Est-ce que vous vous êtes redéfini à chaque fois, vous avez l'impression? Toi, tu as vécu les 4.
Ouais.
Il y a eu beaucoup d'adaptations, hein, comme n'importe quelle entreprise ou comme n'importe qui, changer de comparse ou changer de partenaire de vie.
Changer de sexe.
Changer de sexe aussi.
Oui, vous avez vécu ça aussi, c'est vrai.
Pas des farces, c'est
dans
pas
le band, il y en a un qui est devenu une femme. Une qui est devenue une femme. Donc, on a eu un parcours très particulier pour un groupe au Québec, mais on peut le dire, c'est très particulier. Le départ de Jean-François, c'est sûr que la première phase, c'était un peu euphorique, hein, on va le dire comme ça. La deuxième phase, le départ de Jean-François, c'est une redéfinition. Donc, on travaille, on cherche. Deuxième phase, Martin qui s'en va, effectivement, là, dans la deuxième phase. On fait un bout. Le retour de Jean-François, c'était quelque chose qui n'était pas programmé.
Hein, c'est... En bosse pour un show spécial pour votre coin. Hein.
Dont un certain journaliste a passé plus de temps
je
dans sa chambre d'hôtel.
Tellement. Je l'ai dit à Martin, on va être chez nous.
Il a peur de la pluie, lui.
Hein? Ben, il n'y en avait pas un peu de la pluie. Là.
T'es le seul à être parti.
Non, non, on est 3 à être parti sur 4.
Mais les deux autres, les 3 000, 4 000 personnes sont restées là.
Ils restent en bas,
eux autres sont faits forts. On l'a vu. Mais, tu sais, après ça, le retour de Jean-François va pouvoir clore la discussion.
C'est pas que j'ai planté au fer le lendemain, par exemple. Mais ça, c'est,
c'est pas toi qui as gagné au fer. C'est ton ami. C'est ton ami. Non, vous êtes juste des. Vous êtes meilleur au fer qu'à d'avoir peur de la pluie. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, c'est sûr que la dernière phase, qui est la nouvelle phase, où on se lance. Il y a beaucoup, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de partage de tâches, beaucoup plus de... On est vraiment ailleurs au niveau mental et nouveau équipe.
Il faut dire qu'on n'est plus non plus... les enjeux ont changé. On n'est plus dépendant d'un gérant ou d'une compagnie de 10. Je pense que tu parlais de l'époque rock, de nos silences. Quand on est revenu ensemble... ce qu'on se faisait dire, c'est ben le genre de folk rock que vous le faites, il y en a d'autres qui le font mieux que vous autres maintenant. T'sais. Et on s'est toujours dit, nous, on se lance, qu'on fera jamais deux fois le même album. Donc, on s'était toujours juré qu'un jour, on aimerait faire un vrai album concept, très, très artistique.
Très bon, c'est cela.
Oui, mais c'est pas très commercial,
non, on s'entend. D'accord.
Mais c'est vrai qu'au niveau de la création, au niveau en tant qu'œuvre musicale, moi, je pense que c'est là où on était le plus accompli. Mais c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on n'a plus cette pression-là de vouloir se dire « Là, il faut absolument vendre des disques, il faut absolument... » On se mentira pas, nous, on se lance en ayant à l'intérieur du groupe un gérant d'artiste, quelqu'un qui a un studio d'enregistrement, un diffuseur de spectacle, quelqu'un en promotion. On est autodépendant. Faire un album, tout ce que ça nous coûte, c'est du temps. Donc, les enjeux sont beaucoup moins grands. On le fait d'abord et avant tout parce que ça nous tente de le faire. Puis quand on a quelque chose à dire, si on n'a rien à dire, on ferme notre gueule puis on fait rien, tout simplement, tu sais.
Est-ce que d'avoir des enfants, ça a changé la dynamique aussi du groupe? Parce que vous êtes tous ouais, pères
moi,
et mères
j'ai
de famille.
Un anecdote. Un seul. On est 14 enfants à l'intérieur de Noir Silence. C'est 14
pas
enfants.
Pas encore de petits, quand même?
Pas encore de petits, non.
Ça ne sera tardé.
Ouais, Martin ou Bernatché, là.
Non, ça va arriver bientôt, je pense.
Mais moi, je me rappelle d'une anecdote. Cet été ou l'été passé? Que t'es rentré avec la cage. Sam, il rentre dans la cage. On s'entend, on mène une vie de rockstar. Puis là, c'était le... On est en tournée avec les frères à cheval, avec les vilains pingouins. Fait que, tu sais, tout le monde, c'est qui les plus tough, c'est qui les plus rock, c'est plus, tu sais, des petits vieux qui jouent au coq, là. Et Sam, qui rentre dans notre loge avec une cage puis un lapin dans
la cage. Pour mes filles!
Puis là, je le regarde, Sam, il dit... Ouais, je suis rendu là avec une fille.
C'est sûr que... Bonjour, la crédibilité de rocker.
Ça enlève le rocker.
Ouais, ça enlève le rocker.
En même temps, les rockers des deux autres bandes se sont calmés aussi.
Aussi. Aussi.
Les polos se sont calmés.
Mais c'est sûr que, écoute, les enfants, ça a été... les enfants, là, je sais pas pour ceux et celles qui en ont, mais c'est un stopper. Hein, on va se le dire. Là. Les enfants, ça... Faut que tu fasses beaucoup de sacrifices, faut que tu places tes affaires. Si tu veux vraiment vivre une vraie parentalité, là, je te parle pas d'un homme d'affaires qui travaille 75 heures par semaine puis qui se fait accroire d'être parent. Là. Je parle d'une personne qui est présente, une personne qui enseigne, une personne qui pédagogise ses enfants, qui met des plasters sur les bobos comme il peut avec les propres bobos qu'il possède lui-même. Bon. Quand les enfants arrivent, ça bouleverse tout. Il faut lui apprendre à se respecter là-dedans. Puis tant que t'en as pas, tu peux pas comprendre pourquoi que l'autre, il peut pas arriver à 9h30 le matin. Mais quand t'en as, on va arriver à 10, c'est-tu correct?
Puis quand ouais, les meetings ont changé d'heure chez Noir Silence, ouais. J'imagine.
Ben, quand les enfants sont couchés, pour vrai, on ouais. Se fait un Skype à quelle heure? Moi, j'ai couché à 8h, tant qu'ils s'endorment, contre les histoires,
8h30
Skype.
Donc, yeah. 8h30, c'est les meetings, puis les répétitions sont à 8-9h le matin quand on se voit. Je veux dire,
quand les enfants sont à l'école.
Et quand tu fais des choix dans la vie, qui est la vie, donc tu donnes la vie à quelqu'un, tu te dois de respecter cette vie-là et d'y donner du temps, tant aussi longtemps que tu ne l'as pas compris et que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas porter de jugement. La parentalité, c'est un marathon. C'est un marathon difficile. C'est un marathon qui a beaucoup d'étapes. C'est un marathon dont tu improvises toute ta vie. Alors imagine qu'on est 5 avec 14 enfants. Ça veut dire exactement 19 horaires plus les blondes, ça fait 25 horaires. Fait que quand on fait une répétition, c'est une bénédiction.
mais c'est vrai, puis Sam, il dit, quand tu n'as pas... J'ai été un des plus vieux à avoir des enfants. Là. Tout le monde en a eu avant moi, puis moi, j'arrivais pas à comprendre. Comment ça, tu peux pas venir à l'heure à répète? Ah, ma blonde va être seule avec les enfants pour les bains. Ben oui, puis c'est quand même juste des bains. Non, non. quand tu réalises que deux enfants qui prennent des bains, c'est de l'action, là, on s'entend, là. Tu gères une bête sauvage, là. Et tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas c'est quoi, effectivement.
Pour juste t'appuyer là-dedans, effectivement, Jean-François, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-François, le chanteur de Noir Silence. Hein, parce que c'est le dernier à avoir un
téléphone. Il y en a deux dans le groupe des Jean-François.
Ouais. Et c'est le dernier qui a eu un téléphone cellulaire. C'est le dernier qui a eu un permis de conduire. C'est le dernier qui a eu une voiture. Puis c'est le dernier qui a eu des enfants. Fait que
c'est le premier à être keto.
C'est le premier keto. donc Jean-François a tout vécu en décalé. Fait que, et Jean-François Bernacchi, le guitariste soliste, a tout eu avant tout le monde. Fait que, quand tu mets ça dans un spectre de 27 ans de convivialité dans un band, c'est quelque chose, là. Des fois, on vit à deux et on se tape ses nerfs. En fait, on se tape ses nerfs souvent à deux dans la vie. Hein?
Vous êtes cinq.
Là, on est cinq. Avec le blonde. Ça fait du monde, ça, là.
Parce que c'est sûr que les blondes ont quelque chose à dire dans le band tout le temps, tu sais. C'est pas qui... On peut-tu avoir une répète? Attends un petit peu, je te reviens. Faut que tu bouges le téléphone. Mettons, samedi soir, là, t'avais-tu de quoi de prévu?
Tu sais, parce que là, on essaie de trouver des trous dans des lieux insolites, là, tu sais, pour travailler. Mais tout ça fait la beauté du moment. Parce qu'on est capable, on apprécie de plus en plus, on se le répète, des choses qu'on n'avait jamais dit entre hommes, de dire « Hey, je suis donc bien content d'être là. C'était donc bien une belle soirée. Je suis donc bien content d'être avec vous autres. » Ça, mon gars, quand tu finis un show, puis tu te regardes dans les yeux, tu te dis « Garde, on a vécu ça, man. On a fait ça ensemble. Ça fait 27 ans qu'on le fait. Puis on le fait encore du mieux qu'on peut avec la même énergie. » C'est extraordinaire.
Et je pense que les enfants nous ont beaucoup humanisés aussi. Je prends l'exemple. Cette année, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas fait un party de Noël. Les membres du groupe ensemble, avec les blondes puis les enfants, ça faisait 25 ans qu'on ne l'avait pas fait. Et on l'a fait cette année, puis ça a été comme wow. T'sais. On a eu un party de bureau. On a eu un vrai party de bureau.
Avec les enfants, là.
Avec les enfants.
Qui jouaient avec nous autres, puis tout.
C'est quelque chose qu'on ne prenait pas le temps de faire. On n'avait peut-être pas l'humanité et l'humilité entre nous autres de le faire aussi.
Puis il y a une autre chose aussi qui est très particulière, c'est l'école. Tu sais, quand tu vas à l'école, là, puis là, les enseignantes te reconnaissent, tu sais.
Parce que pis, eux autres, ils ont grandi.
Eux autres, ils ont grandi avec ta musique, tu sais. Ça nous arrive aux cinq, là. Fait que là, ils disent à ton gars ou à ta fille, « Ton papa, c'est-tu? » Ben oui, mon papa. Mais mes enfants, moi, ils comprenaient pas ce qu'il a... Jusqu'à temps qu'ils viennent me voir en show. Ça, là, je me suis dit, la journée où ils sont venus me voir en show la première fois, je peux mourir. Tu comprends? C'est... Ils ont vu papa et ils comprennent ce que papa a fait.
Sam ne jouait que pour ses filles. C'était beau à voir. Il était là.
Ah ouais.
Mais tu sais, maintenant, ils disent, « Papa, est-ce que c'est un motel ou un hôtel où on va? » Parce que s'il n'y a pas de piscine, on n'y va plus.
Ah,
ils sont rendus là.
Rockstar. Ils font le choix.
Ils ont
eu deux albums lancés en 2019, une compilation pour souligner... Ben, c'était plus que 25 ans, finalement.
Ouais, ben, on étire le 25
ans. On a même un pied.
Oh, on a un vrai pied. Ouais, on étire les 25 ans quand même.
Mais les 25 ans du premier album, c'est cette année.
Oui,
c'est 95, c'est ça. Donc ça fait 25 ans cette année.
En fait, on a enfin réuni toutes les chansons. Tu sais, ça a l'air de rien, mais faire une compilation d'un Greatest Hits, c'est des permissions que tu demandes à plusieurs compagnies de disques, plusieurs distributeurs, plusieurs... Donc, il y a beaucoup de paperasse et de bébelle administrative à gérer. Donc, on réussit enfin à sortir notre Greatest Hits. Puis, c'est quand même le fun. Puis, avoir su que ça vendait tant que ça, les vieilles affaires réchauffées, on fait
avant. Et avant ça, il y a eu un album, un EP.
Merci Sam, mon technicien qui m'installe le micro.
Oui, on a un EP de 6 chansons, plus country rock.
Ouais, ben
alors que tout à l'heure, on disait qu'au départ, vous ne l'assumiez pas, le country.
C'est ça qui est drôle, hein?
Est-ce que c'est l'âge?
Je ne sais pas.
Ou c'est la vague New Country aussi?
C'est peut-être la vague New Country, mais comme je le disais plus tôt, on a essayé de jamais faire deux fois le même album. Il y a eu une grande, grande, grande passion du country avec Michel, justement, avec les Tiki Jones. Jean-François et Martin ont toujours, toujours été, depuis des années, au festival à Saint-Tite comme musicien accompagnateur. Donc, je sais pas, c'est peut-être... On a ouvert la valve en disant « OK, c'est peut-être possible ».
puis le produit est arrivé.
Les résultats sont là aussi. T'sais, les gens connaissent bien Tiens ma bière. Ouais.
On arrive ça, ça vous a surpris, ça, de savoir qu'une nouvelle toune de Noir Sens, parce que tu disais ça marche bien les vieilles chansons, mais là, de savoir qu'on lance une nouvelle toune, qu'elle embarque dans les radios, que les gens la connaissent, est-ce que c'est un cadeau, ça, quand ça arrive?
Oui,
parce qu'on l'attend plus,
oui,
j'imagine.
Oui, surtout à notre âge, on l'attend plus. On se fait pas d'idée. On sort un produit quand on pense qu'il est bon. Et de voir qu'on a encore un peu de flair et qu'on réussit encore, comme je disais, à rejoindre des gens de par des histoires... C'est sûr que ça fait du bien. Puis tout ça vient d'une blague. Hein? C'est vraiment une blague que Danny Bédard m'avait contée, qui m'avait dit « Ah, tu viens de la Beauce, toi. C'est-tu vrai que ça a l'air que 70 % du monde qui se présente à l'urgence en Beauce, quand tu lui demandes ce qui s'est passé, ça commence tout le temps par « Ben là, j'ai dit à mon chum, tiens ma bière. » Et donc, on a trouvé ça tellement drôle qu'on a dit « Écoute, faut faire une toune. » C'est devenu le titre de l'album. Puis c'est ça. Je pense qu'on a eu encore la chance... de tomber sur quelque chose de rassembleur.
Vraiment, en spectacle, là, tu pars la toune, là, whoop, tu vois les bras levés, puis tu vois les gens qui chantent le refrain. Après 27 ans de carrière, c'est vraiment sharp.
l'album compilation a été lancé au coup de camp francophone.
Oui.
C'était comment pour vous autres de faire les coups de camp? Souvent, c'est un peu plus niché, les coups de camp francophones.
Oui, bien, en fait, on s'est associé beaucoup. On s'est associé avec, justement, les Frères à cheval, qui eux autres l'ont aussi lancé un nouvel album à ce moment-là. Et les Vilains Pingouins, qui venaient d'en sortir un, qui venaient de sortir coup de cœur quelques mois avant. Je pense que ce qui était spécial pour nous autres, c'est de refaire le Soda, même si c'était pas le même Club Soda. Le Club Soda est quand même la première scène sur laquelle Noir Silence s'est présenté.
Avec le même technicien, d'ailleurs.
Oui, hein, c'est vrai.
Yves, le gars, le dude qui fait la sonorisation, qui est directeur technique du Club Soda, c'est le même gars que quand on l'a fait il y a 27 ans.
C'était l'ancien Club Soda, vous autres?
Oui.
Avec le déménage?
Oui, donc c'était très particulier. Puis moi, je te cacherai pas que Vilain Pingouin, pour moi, c'est plus important dans mon cœur que n'importe quelle autre band. Fait qu'on partage la scène avec eux depuis quelques années. On joue avec eux au Club Soda, la même soir qu'on célèbre un peu notre best-of et nos 27 ans. C'est comme wow, là. Il y avait beaucoup de signes dans l'air, là, tu sais.
C'est vraiment l'ambiance des trois bandes ensemble, autant sur la scène que dans le public, parce que là, le public connaît absolument chaque chanson par cœur.
Ah, écoute, c'est un, je pense que, puis là, je dis pas ça pour me péter les bretelles ou nous péter les bretelles parce qu'on est trois là-dedans. Je pense que c'est probablement un des meilleurs spectacles à voir en festival l'été. C'est 2h30 de chansons, de party connues. Puis l'ambiance entre nous autres aussi est bonne. C'est, je pense, un des beaux moments que j'ai vécu, c'est quand je me suis présenté sur scène sans le dire à Rudy Kaya et que j'ai été y remettre son fameux bandeau qu'il arrêtait de mettre depuis des années. Donc, ça a créé une espèce de d'euphorie dans le public de dire « Hey, il a remis son bandeau, tu comprends? » Et il y a une belle camaraderie. Rudy et moi, on se connaît quand même bien depuis quelques années. Mais on a appris les bandes ensemble à triper puis à avoir du fun ensemble. Puis c'est drôle parce qu'il y a plein de musiciens. Le musicien qui joue sur mes albums solo, maintenant, joue avec les Frères à cheval. Louis Mercier-Beaulieu, qui est guitariste pour les Frères à cheval. Et dans Frères d'âme, quand on joue, il y a Red, finalement, qui est rendu guitariste des Vilains Pingouins aussi.
Ça pourrait tellement être compliqué.
Puis ça ne l'est pas.
Je sais pas si vous savez, là, mais c'est 15 musiciens sur 5 qui ont
15 personnalités
différentes. Souvent, on utilise le même drum, on partage les amplis. C'est d'une simplicité là, incroyable. Moi, j'avais peur de ça. T'sais. Techniquement, souvent, on peut se planter. Là. Mais non. Puis là, tu arrives, tu écoutes mon voisin d'en haut. Deux minutes plus tard, tu as salut, salaud. Un peu plus tard dans ta soirée, tu vas entendre le train. Après ça, tu entends jase de toi, mais des USA en attendant de partir. Tu vas avoir. C'est comme toutes les années 90, à part les coups-là. C'est quelques-uns d'autres, évidemment, là, mais
on l'a fait une fois au Festival des Montgolfières, où Légion, parce que Légion, c'est un peu un spectacle qu'on offre avec ces trois bandes-là en premier, mais via en option des ramifications. Une fois, on l'a fait, il y avait justement, il y avait Zébulon qui était là.
Il pas fait avec cette blanc des Respectables, c'est ça.
Il y avait les Respectables qui étaient là aussi, donc on était, à ce moment-là, on était cinq bandes. Mais c'est quand même, cette tournée-là, c'est un bon show qui est rodé maintenant. Écoute, l'ambiance est là, le public le dit, nous autres sur scène, on sent cette bonne humeur-là. Et d'ailleurs, on a, c'est drôle parce qu'on a une vidéo qui est sortie de notre été et à la fin du spectacle, je présente les membres du groupe et je finis en disant « Et je suis Rudy Kaya! » Et ça, c'est un insight parce que Rudy finit son spectacle en disant « Je suis Jeff Dubé, merci, bonsoir. » C'est une espèce d'insight qu'on a entre Rudy et moi.
On est allé fêter ta fête aussi.
Oui, chez mes parents, avec les bandes qui étaient là, puis... écoute, Rudy était là, les gars des frères, c'était chez mes parents, dans notre ville, on jouait à Beauceville, les trois bandes étaient là et c'était ma fête. Fait que là, ma mère organisait un party.
Le plus gros chili que t'as jamais vu de ta vie.
J'ai dit, c'est un classique, les chili dogs, là, c'est un classique. Et là, c'était justement de tout le monde qui partageait autre chose qu'une scène, c'était plus une grosse fête familiale.
Pis... De voir les gars des Pingouins. Dans notre premier local, en train de poser des questions sur « Ah oh ouais, c'est un ancien poulailler, telle grandeur, telle affaire. » Moi, j'avais le cœur en compote. Là,
parce qu'évidemment, quand vous avez commencé, les Pingouins avaient déjà commencé.
Ah ben oui!
Vous avez un peu grandi avec la musique des Pingouins.
Ben, c'est sûr. Moi, j'avais deux idoles. C'était Richard Séguin qui était à droite puis Rudy Kaya qui était à gauche. Donc, j'ai grandi entre ces deux-là.
Moi, c'est la première tune que j'ai joué en spectacle.
Ouais,
je marchais seul.
Ouais.
Fait que tu sais, je suis comme... Man, je partage la salle avec lui, je capote. Les gars sont fins en plus.
Messieurs, un show de Noir Silence tout seul, là, sans Légion 90, ça ressemble à quoi maintenant? Parce qu'il y a des nouvelles tunes, évidemment, on veut les jouer.
Oui, ben,
mais il y a les classiques, là, y en a un paquet.
On focus beaucoup sur, c'est con, mais sur ce que les gens veulent. On n'essaie pas. C'est toi arrivé souvent, moi, que j'ai été voir des groupes, puis que.
Qui plaçaient toutes les
je voulais entendre, tu sais, je voulais entendre les hits, puis finalement, ils font juste un nouvel album, puis. De dire oui, c'est cool pour un artiste de présenter les nouvelles chansons, mais les gens, généralement, ce qu'ils veulent, c'est danser, avoir du plaisir, chanter. Fait qu'on essaie de focusser beaucoup là-dessus, sur l'énergie du band, la bonhomie un petit peu de Noir Silence. Je pense que des fois, il y a trop d'artistes qui se prennent trop au sérieux dans le show. T'sais. Ce qui fait que même moi, à l'intérieur du band, j'essaie de surprendre. Les gars du band, tu sais, soit en changeant les paroles d'une tune, soit en notant quelque chose, ou tu sais, on n'essaie pas de monter un spectacle, monter au quart de tour où chaque pas de danse est préparé. Je pense que c'est pas ça la musique, c'est de s'amuser. Il faut qu'on ait du fun, nous autres aussi, tu comprends.
On avait déjà accès, on avait beaucoup accès déjà l'angle de Noir Silence en spectacle sur l'énergie. Et là, on l'a redirigé vers le public plus que jamais, je pense, avec une compréhension que peut-être qu'on avait moins à l'époque. Puis même si on disait « on laisse une place au public », je pense que plus que jamais, Jean-François, il connaît son public. Et il laisse une place vraiment grande. On a l'impression que tu sais, quand les gens connaissent « Malade en attendant de partir »,« Made in USA »,« Lune »,« On jase de toi », tu sais, « Mes hauts penchés », à un moment donné, les gens font vraiment partie de l'affaire. Fait que Noir Silence en spectacle, c'est surtout ça. Et en espérant qu'ils passent plus qu'un bon moment, tu sais. Qu'ils se remémorent leur propre moment.
Un des commentaires qu'on a beaucoup, justement, c'est ça. C'est écoutez, vous avez tellement l'air d'avoir du fun, puis que. Mais c'est parce que c'est pas fake, c'est vrai. Quand on monte sur scène, avec toutes ces années-là maintenant, on monte plus avec les mêmes enjeux. On se considère chanceux de pouvoir le faire, puis on veut savourer le moment. C'est fait que. On veut pas que rien soit désagréable pour personne, tu comprends? À un moment donné, quand ça devient trop l'ego de « là, quand je fais ça, faut pas que tu viennes déranger », puis là, quand je pense que c'est important, tout le monde a pris sa place aussi. J'ai essayé de monter un spectacle parce que, bon, veux pas, le chanteur devient un peu metteur en scène ou c'est lui qui dirige, mais j'essaie le plus possible. J'essaie le plus possible que chaque membre du band ait un gros moment de gloire, ait son moment à lui. T'sais. On est un groupe, on n'est pas Jeff Dubé et ses Noir Silence, c'est pas ça. T'sais. On veut que ce soit un band, qu'on travaille en équipe et que tout le monde soit heureux là-dedans.
Messieurs, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Hey, Luc, merci.
C'est déjà là, hey, ouais. Fini comme ça, dans hey, même.
Ouais. Tu nous mets à la porte de même. Après, la crème glacée est finie. Après ça, pow!
C'est ça.
T'as pas assez mangé? Non.
C'est pas ça que j'ai dit. Merci de l'accueil.
Voulez-vous un petit café des Chris, les gars?
Messieurs, merci encore une fois.
Hey, merci, Luc.
Merci.